9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. 20 millions de Français viennent de vivre leur première nuit de couvre-feu. Je recevrai tout à l'heure l'infectiologue Karine Lacombe afin de faire un point sur le virus et sur notre manière de le combattre. Mais d'abord, pour parler du meurtre de Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine et du couvre-feu qui a débuté donc hier, je reçois l'auteur de « Qui a tué Daniel Pearl » et de « Ce virus qui rend fou », Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a plusieurs manières d'aborder le meurtre de vendredi. On peut l'aborder par l'islamisme radical, le terrorisme, la liberté d'expression, l'éducation, la laïcité, la sécurité, l'immigration, la République. Laquelle vous semble être la plus appropriée ?
Écoutez, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la première décapitation dont j'ai entendu parler, qui était il y a 17 ans, celle du journaliste américain Daniel Pearl.
À qui vous avez consacré un livre.
J'avais consacré un livre, j'y avais beaucoup réfléchi, j'avais passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on pouvait en arriver à un acte pareil, qu'est-ce qui pouvait se passer aussi dans la tête d'un homme... victime de cette boucherie. Donc c'est ça qui me revient à chaque fois. Chaque fois que, ici ou ailleurs, on nous parle d'une décapitation, j'ai ces images qui me reviennent, ces images d'atrocité absolue.
C'est ce qui nous a tous horrifiés vendredi. En même temps, c'est pour nous faire peur.
Oui, c'est un geste d'effroi absolu, d'intimidation totale. C'est traiter un humain comme un animal. Et vraiment, je ne veux pas y insister aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est le geste de décapiter n'est pas tout à fait la même chose que le geste de poignarder. Il y faut un acharnement, il y faut une haine, il y faut une préparation. Il y a quelque chose là de terriblement radical. Voilà. Et donc, c'est pour ça que toutes les explications, tous les commentaires que j'entends... un jeune possédé qui a été pris d'un moment d'égarement, etc., ne tiennent pas la route. Hein. Une décapitation, c'est un acte, c'est extrêmement difficile. Il faut probablement une résolution mentale pour parvenir à cela, qui suppose toute une préparation idéologique, si j'ose dire intellectuelle, enfin je ne sais pas. Mais voilà, c'est un geste qui est destiné à semer l'effroi. Et d'ailleurs, c'est une des recommandations qui avait été faite il y a quelques années par le porte-parole de l'État islamique, de descendre dans les rues avec des armes de fortune et notamment de décapiter.
Mais alors justement, la peur, le but des terroristes, c'est toujours de nous faire peur. Faut-il avoir peur ?
Non, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, faut-il avoir peur ? Je comprends que l'on ait peur.
Est-ce qu'on doit s'en défendre ?
Il faudrait, oui. Je me mets à la place, j'ai été moi-même enseignant, et je me mets à la place de tous les professeurs d'histoire... qui vont reprendre le chemin de l'école après les vacances qui ont commencé hier matin. Ils vont aller en classe, la peur au ventre. Et tous ceux qui vont aller enseigner l'histoire ou l'éducation civique, comme on l'appelait autrefois, dans des quartiers qu'on appelle pudiquement difficiles, bien sûr qu'ils vont avoir une peur terrible. Et d'ailleurs, il faut les protéger. Je ne sais pas comment, mais là la République, elle a évidemment une responsabilité. Il faut aider... les professeurs à ne pas avoir peur. Oui, il faudra les aider dorénavant à ne pas avoir peur.
Plus généralement, Bernard-Henri Lévy, le but des terrorismes, c'est de nous terroriser. Ne pas avoir peur, c'est une manière de refuser d'être vaincu, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous faites le geste de m'arrêter.
Non, pas du tout. Non. Je fais le geste de m'apprêter à vous répondre. Je comprends que les gens aient peur. Mais je pense aussi qu'il faut résister à cette peur. Parce que si on cède à la peur, ça veut dire que les terroristes ont gagné. Si on cède à la peur ou si on se contente d'y réagir par des bougies aux fenêtres, c'est reconnaître la défaite des démocraties. Donc, être angoissé par ce qui s'est passé là, en mesurer l'ampleur, être saisi d'effroi, oui. Avoir peur, c'est-à-dire paralysé et accepter que les institutions ne fonctionnent plus, ça, ce serait une grave erreur. Concrètement, il est très important, j'ai pas de recommandation à leur donner, mais il me semblerait capital que les professeurs d'histoire, après la rentrée, recommencent, en effet, comme ils l'ont toujours fait, de parler de la tolérance, de parler de Voltaire, de parler des caricatures, de Mahomet ou de l'Église catholique. Voilà. Et la faillite collective, ce serait si, après ce qui s'est passé vendredi, si les professeurs disaient ben, « on démissionne », il est plus prudent de ne pas provoquer, on va céder au discours de ses parents d'élèves qui avaient mis des vidéos quelques jours ou quelques heures avant la boucherie et qui disaient « ce professeur n'est pas un professeur, c'est un voyou ». Ça, ce serait une tragédie.
En même temps, Bernard Lévy, quand on dit qu'on n'a pas peur du terrorisme, on peut être accusé de faire l'autruche.
Non, je crois que faire l'autruche, c'est au contraire en avoir peur et mettre les problèmes sous le boisseau. C'est ça l'autruche. Ça veut dire ne pas dire qu'il y a un problème avec l'islamisme radical, ne pas dire que l'islam politique est meurtrier. Ça, c'est faire l'autruche. L'islam politique est potentiellement meurtrier. Le salafisme peut armer le bras des assassins. Il y a à l'intérieur de l'islam une lutte politique d'une extraordinaire violence entre l'immense majorité des musulmans dont les principes sont compatibles avec ceux de la République et puis une minorité mais extraordinairement bruyante et active qui a décidé de mettre la charia au-dessus des lois de la République. Il faut dire qu'entre ceux-là, il y a une opposition, une lutte à mort à l'intérieur de l'islam.
Bernard Lévy, vous êtes un pourfendeur de l'islamisme radical, vous l'appeliez l'islamo-fascisme, je m'en souviens, mais pas de l'islam en tant que tel. On vous l'a reproché d'ailleurs, notamment quand vous défendiez la cause des musulmans bosniaques en ex-Yougoslavie. Comment garder ce cap ?
Écoutez, c'est le cap que garde aujourd'hui en France et ailleurs une immense majorité de musulmans.
De musulmans, certainement, mais oui. De ceux qui commencent à avoir peur, justement.
Eh bien, il faut, c'est la raison pour laquelle eux aussi, eux non plus, ne doivent pas céder à la peur. Parce que céder à la peur, ça veut dire adopter ce genre de réflexe. Cela veut dire partir dans des logiques de guerre civile. Et vraiment, ce matin, il faut le dire avec beaucoup de force, la pire des issues, ce serait l'issue de la guerre civile. Ce serait le déchirement des Français, des communautés jetées les unes contre les autres. Ça, ce serait le pire. Donc, il faut vraiment... De ce point de vue, garder le cap, qui est le cap de la vérité, hein, c'est-à-dire le fait que l'islam a en son sein des imams, des croyants, et même d'ailleurs des sourates qui peuvent amener à cela. Eh bien, l'islam doit faire le travail sur soi-même, le travail de commentaire, le travail de révision des textes et des pensées que les chrétiens, que les juifs ont fait, et qui fera que l'islam sera compatible avec la démocratie. Ce travail-là, il faut exhorter les musulmans de France, les musulmans du monde, de faire. Et la preuve que ça peut marcher, vous me parliez de la Bosnie, la preuve que ça marche, c'est par exemple la Bosnie il y a 25 ans. Lorsque je me suis trouvé en première ligne de la défense des assiégés de Sarajevo, je le faisais au nom des droits de l'homme, bien sûr, et au nom de l'horreur des bombardements qui étaient faits par les Serbes. Mais je le faisais aussi parce que je savais qu'à Sarajevo, il y avait un islam modéré, ami des Lumières, ami de la démocratie, où on ne disait pas que la charia était supérieure aux lois civiles. Donc il y avait là, ce n'était pas une communauté, c'était un pays tout entier, la Bosnie-Herzégovine, qui était la preuve vivante que l'islam des Lumières est possible, à condition d'être défendu par des bonnes sentinelles, à condition d'être porté par des bons intellectuels bosniaques à l'époque, et ainsi de suite.
Parlons de sécurité, parce que ça aussi, on en parle beaucoup, je l'ai dit, la sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours des fanatiques issus de toutes les religions, de tous les partis politiques. Même si beaucoup d'attentats sont déjoués par la police et les services de renseignement, un acte comme celui-ci peut toujours se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore de nouvelles lois qui viennent s'ajouter à d'autres lois ? Dieu sait si on en a voté de nombreuses sur le terrorisme.
D'abord, attendez, issus de toutes les religions, non. Charlie Hebdo se moque de toutes les religions à ce jour.
Aujourd'hui, vous avez raison.
Aujourd'hui, les seuls à en avoir tiré la conclusion folle qu'il fallait châtier les coupables, ce sont des musulmans. Nous n'avons pas vu de chrétiens ou de juifs en arriver à cela. Donc, voilà. Mais c'est important parce que cela veut dire aussi qu'une communauté de femmes et d'hommes peut finir par entendre raison, que ce processus n'est pas nécessairement sans fin. Ça veut dire que le travail de conviction, le travail d'éducation républicaine, le travail que faisait ce professeur, M. Paty, au sein de sa classe, et pour lequel, ce travail pour lequel il est mort, cet exercice de pensée et de transmission pour lequel il est mort, en même temps peuvent payer, bien sûr, peuvent arriver à convaincre des générations de jeunes gens qu'ils peuvent pratiquer leur foi, qu'ils peuvent honorer leur foi avec dévotion, sans pour autant avoir l'idée de châtier ceux qui soit se moquent de leur foi, soit même la blasphème. Voilà, il faut éduquer les enfants dans les écoles de France à l'idée qu'a exprimé le président de la République récemment, que le blasphème était un droit. Le blasphème n'est pas seulement une espèce de caprice que nous devrions tolérer ou protéger, c'est un droit républicain, c'est un droit démocratique, c'est un droit qui fait partie de l'histoire de France. La France, c'est ça. L'art de vivre à la française dont on nous parle beaucoup ces temps-ci, c'est aussi le droit de se moquer de toutes les religions et de s'en moquer souverainement.
Justement, la laïcité, là aussi, on en parle beaucoup. Comment l'enseigner ? On voit bien que c'est délicat. On voit bien que ça l'a toujours été, d'ailleurs. C'était les catholiques qui étaient visés en 1905. Et aujourd'hui, on sait bien que ce sont les musulmans auxquels on pense quand on prononce ce mot-là. Comment, vous qui avez été professeur, Bernard-Henri Lévy ?
Alors, si on est vraiment très pragmatique, il faut enseigner l'histoire de la laïcité, il faut enseigner les grands et beaux textes qui l'ont formalisé. Moi, je crois à l'influence que peut avoir un grand texte formulé dans une grande langue avec une pensée bien articulée, l'influence que peut avoir ce texte sur les esprits. Et puis, il y a tout simplement aussi, et là, je fais appel à mon expérience bien ancienne de professeur, mais ça marche aussi, les mérites comparés des deux solutions. Moi, je me sentirais, et il m'est arrivé d'ailleurs, même sans remonter au temps où j'étais enseignant, il m'est arrivé de m'exprimer dans des classes, dans des lycées français, et d'expliquer aux enfants que j'avais face à moi que il faisait meilleur vivre, y compris pour ceux qui étaient impatientés par les blasphèmes, meilleur vivre dans une société qui permet le blasphème que dans une société qui l'interdit.
Et parce que, par la même occasion aussi, on a le droit de critiquer le blasphème. Mais critiquer, ça n'est pas tuer.
Non mais surtout, il m'est arrivé de dire à des classes d'enfants dont je vous parle qu'une société où le blasphème est interdit est une société qui, pour eux, pour eux-mêmes, pour leurs fiancés, pour leur future femme, pour leurs camarades, pour leurs sœurs, serait irrespirable. Et ce discours-là, il est aussi audible. Les enfants, les jeunes gens sont capables de faire cette balance, cet équilibre entre les avantages et les vertus, et au contraire les terribles conséquences d'une pensée. Un enseignant devrait pouvoir, je pense, leur expliquer, autrement dit, qu'il y a une vertu des Lumières, voilà.
On se retrouve dans un instant, Bernard-Henri Lévy.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bernard et Lévy, on parle beaucoup de la République, tous. Vous-même, vous avez dit la République plusieurs fois. Au gouvernement, on parle beaucoup des valeurs républicaines. A-t-on raison de les invoquer sans cesse, et la République et les valeurs républicaines ?
On a raison de les invoquer face à ce type de geste, oui. Parce que la République, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chose commune. Cela veut dire les quelques principes que nous avons en commun et dont le respect permet à chacun de vivre sa vie. En gros, c'est ça la République. La République, c'est à la fois quelque chose de contraignant et de minimal. C'est une armature de principes, c'est un cadre de règles qui ont cette vertu assez magnifique d'ailleurs, de, une fois qu'elles sont respectées, de permettre à chacune et à chacun d'organiser son imaginaire, d'organiser sa vie personnelle comme il l'entend. Donc oui, face à ceux qui en ont, qui prêchent au contraire une vision totalitaire de la société, la République, elle a cet avantage d'être une formule minimale, à la fois contraignante, mais quand on la respecte, elle est minimale. Elle a peu d'influence sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le sens qu'on donne à sa vie, sur la manière dont on rêve, la manière dont on pense. Donc, bien sûr, en ce moment où de partout pousse l'idée et presse l'idée que la communauté, les micro-communautés, les communautés séparées l'emportent sur la République, il faut dire aux jeunes gens que ces communautarismes-là vont les étouffer, que ces communautarismes-là vont les empêcher de respirer, vont les empêcher de vivre, et que la République, à l'inverse, libère. C'est ça qu'on entend par République.
On peut penser aussi à cette belle phrase « tu ne tueras point ». On y a pensé en apprenant ce meurtre. Ce n'est pas la seule occasion à laquelle qui nous permet d'y penser. Mais cette phrase-là, forcément, a retenti dans notre esprit. Ça n'est pas une valeur républicaine. Tu ne tueras point. Et pourtant, c'est la première à laquelle nous on a pensé.
Oui, mais de toute façon, la République, elle n'est pas née de rien. Elle est née dans des civilisations. Enfin, la République telle que on la respecte en Europe occidentale. Elle vient de la République romaine, elle vient de la cité athénienne, et puis elle vient aussi d'un corps de valeurs judéo-chrétiennes. Elle n'en fait pas table rase, elle les reprend, elle les transcende, ces valeurs judéo-chrétiennes. Donc que vous trouviez la trace du « tu ne tueras point » au cœur des valeurs républicaines n'a rien de surprenant. Le cœur de la laïcité, au fond, rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, séparer les deux ordres, c'est une formule d'origine chrétienne aussi. Donc la République et la laïcité ne sont pas des corsets tombés de l'extérieur et venant mortifier des sociétés qui seraient contraintes d'oublier leur passé. Les chrétiens, les juifs et ceux qui ont fait le chemin de l'agnosticisme ou de l'athéisme le savent, qu'il n'y a pas de solution de continuité. Et c'est cela aussi qu'il faut dire à ceux des musulmans qui sont tentés de refuser le modèle laïque ou le modèle républicain au motif qu'il les contraindrait à faire le deuil de leur tradition. Non, c'est pas vrai. La laïcité à la française, elle est assise sur un certain nombre de principes dont certains ont été formulés par les premiers chrétiens.
On aborde aussi cet acte par le biais de l'immigration. L'assassin est tchétchène. L'immigration, c'est une manière de l'aborder pour vous ?
Non. Si vous appelez manière de l'aborder, si vous entendez par là qu'il faudrait voir dans cette horreur la preuve qu'il y a trop d'immigrants en Europe, non. Je pense que cette conclusion-là est abjecte. Enfin, et quant aux Tchétchènes, vous savez, là aussi, il faut essayer de compter jusqu'à deux et ne pas partir dans une espèce d'hystérie amnésique et qui consisterait à renvoyer toute la communauté tchétchène en France et la mémoire tchétchène aux oubliettes et à l'enfer de je ne sais quel mal absolu. Je me rappelle quand même l'époque où Poutine parlait d'aller buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Cette phrase-là, quoi qui a pu se passer vendredi, je ne l'oublie pas non plus. Elle est marquée au fer rouge dans ma mémoire de républicain et de démocrate. Et il faut tenter, être un démocrate, ça veut dire tenter de penser les deux choses à la fois.
Je vous posais tout à l'heure la question, faut-il une nouvelle loi, encore d'autres lois on en a voté beaucoup contre le terrorisme. À chaque fois, c'est la liberté qui trinque. À chaque fois, au nom de la sécurité, on est prêt à réduire nos libertés. J'ai l'impression que ce n'est pas votre cas, Bernard Lévy.
Pas moi, non, non, je ne suis pas... Et justement, je n'aime pas ce chantage-là. Je n'aime pas qu'on me présente les choses ainsi et je suis convaincu qu'un pays comme la France, qui est un grand pays, grande tradition politique, a les moyens de penser les deux choses à la fois, a les moyens de défendre sa sécurité sans transiger sur les libertés. Enfin, je suis convaincu de ça. Et je pense que ça, c'est le pacte du diable. Le pacte qui consiste à dire « cédez sur vos libertés, on vous donnera la sécurité », c'est le pacte du diable. Et c'est celui d'ailleurs que nous offrent les islamistes, en tout cas auxquels ils voudraient nous amener.
Et généralement, ceux qui veulent nous faire peur, veulent-ils un gouvernement plus autoritaire ?
Bien sûr, il y a une alliance de fait et d'ailleurs souvent d'intention entre les uns et les autres, entre les islamistes radicaux et ceux qui sont animés par une tentation autoritaire. Lorsqu'un islamiste, à l'époque où l'État islamique existait, à l'époque où il avait ses bases et ses camps d'entraînement dans des lieux géographiques précis dont il a été débouté, qui étaient la Syrie et l'Irak, ils avaient évidemment un rêve qui était de voir les démocraties se claquemurer, se fermer, espèce de politique du pire, voyant des despotes venir au pouvoir et leur donner raison et faire en sorte que toutes les communautés musulmanes se soulèvent contre les despotes en question. Il ne faut surtout pas tomber dans ce jeu-là.
On se retrouve dans un instant, Bernard Lévy.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Bernard-Henri Lévy. Il n'y a pas eu que cet événement, malheureusement, cette semaine. Il y a également eu le couvre-feu. Vous aviez publié avant l'été, avec beaucoup de succès, un livre intitulé « Ce virus qui rend fou ». Le couvre-feu, j'imagine que vous ne le voyez pas d'un très bon œil.
En effet, je pense que c'est une mesure extrême et que c'est trop face à cette pandémie. Non, et que l'État, un État républicain, ce n'est pas un État garde-chiourme. C'est un État qui informe, c'est un État qui alerte, c'est un État qui met les uns et les autres face à leurs responsabilités. Mais ce n'est pas un État, je ne crois pas, qui impose des mesures qui sont réservées en général aux situations de guerre.
Aujourd'hui, ce sont les restaurants, les cinémas, les théâtres qui ferment et qui, par la même occasion, jouent le rôle du bouc émissaire. C'est comme ça que vous le voyez ?
Je ne dirais pas bouc émissaire, mais en tout cas, ceux que vous venez de mentionner vont être les victimes collatérales de cette politique sanitaire. Et ces cinémas qui vont de fait fermer, pour certains d'entre eux, est-ce qu'ils vont réouvrir ? Tout ça est d'une fragilité extrême. Alors on leur dit qu'on va les aider. Oui, mais est-ce que des aides pourront suppléer à ce lien rompu, enfin dont je crains qu'il ne soit rompu par ces semaines où les gens vont être invités à rentrer chez eux. Voilà. Mais d'une manière générale, vous savez, cette invitation à être solidaire en se séparant les uns des autres, cette invitation à être à se soucier d'autrui en restant chez soi, me semble étrange depuis le premier jour. Et là, alors il y a eu le confinement, aujourd'hui il y a ce confinement partiel. Je vais le respecter parce que je suis encore une fois un bon républicain et que je n'appellerai jamais face à un pouvoir démocratique à la désobéissance, mais je le comprends mal.
On nous avait interdit la plage, les promenades en forêt pendant le premier confinement. Je crois que vous aviez écrit quelques lignes à ce sujet. Là, on nous interdit la nuit. Ça n'est pas rien de nous interdire la nuit.
On nous interdit la nuit, on nous interdit l'amitié au-delà de 6, on nous interdit, on nous interdit la vie privée de son choix. Je trouve encore une fois que face à une maladie, face à une épidémie grave, mais dont le taux de mortalité reste extrêmement faible face à des hôpitaux qui ont incroyablement progressé dans la gestion de la maladie depuis mars dernier, face à un engorgement des services de réanimation qui est encore très contrôlé. Je trouve que c'est trop. Oui, je trouve que c'est trop et je ne comprends pas la logique de cette mesure. Franchement, alors je pense qu'il y a dû avoir un débat au sein du gouvernement. J'aurais aimé qu'on en sache davantage parce que il y a là quelque chose d'un peu fou. Le livre auquel vous faites allusion, que j'ai publié avant l'été, s'appelait « Ce virus qui rend fou ». Et en effet, il y a un climat de folie qui est en train de souffler sur ce pays. Et d'ailleurs, qui n'est pas seulement celui des gouvernants. Hein. Je crains malheureusement que ces décisions gouvernementales ne répondent à un désir de notre société.
Elles sont approuvées d'ailleurs.
Ce que disent les sondages. Les sondages réalisés au lendemain, à la veille et au lendemain de ce demi-confinement, semblent l'approuver à une très grande majorité.
Enfin, il y a aussi tous ceux qui ne seront pas victimes de ce confinement qui répondaient à ce sondage. Il n'y a que 20 millions de Français qui sont concernés.
Oui, mais ça veut dire que les autres millions peut-être le souhaitent à leur tour. Il y a quelque chose que la tradition française connaît bien aussi, enfin, un concept qui a été élaboré par un grand jeune intellectuel français qui s'appelait Étienne de la Boétie, qui s'appelle la servitude volontaire. C'est commun à tous les peuples, enfin, ça a été pensé en langue française. La servitude volontaire, ça veut dire quelque chose. Il arrive que des communautés de femmes et d'hommes, croyant œuvrer à leur liberté, travaillent à leur servitude. C'est un cas de figure, hélas, classique.
Mais si je ne m'abuse, je crois bien que la Boétie est mort de la peste.
Il est mort de la peste, absolument. Et il est mort de la peste à une époque, en effet, où la peste, où le taux de mortalité était proche de 100%. Comme le choléra de 1832, tel que le reconstruit, parce que ce n'est pas tout à fait exact non plus, Giono dans le Hussard sur le toit. Voilà, donc il faut quand même pas se lasser de rappeler que cette épidémie, aussi tragique soit-elle, n'est pas la pire que ni la modernité ni l'humanité en général, à plus forte raison, ait vécu. J'entendais l'autre jour le Premier ministre disant que c'est la pire pandémie de notre histoire. C'est inexact. Elle est terrible. Il faut soutenir les soignants. Il faut tout faire pour se protéger. Enfin, il ne faut pas dire que c'est la pire épidémie de notre histoire. C'est inexact. Et une inexactitude de ce genre, à quoi sert-elle? Enfin, quel effet produit-elle? Sinon, là aussi, semer la panique, semer la peur. La peur qui est de nouveau mauvaise conseillère. Il y a dans les grands textes de la psychanalyse freudienne, il y a une distinction cardinale entre l'angoisse et la peur. L'angoisse, c'est un bon sentiment qui crée une alarme intérieure. La peur, c'est une mauvaise passion qui vous prive de vos réflexes et qui vous paralyse et qui vous rend encore plus vulnérable que vous ne le seriez sans et que vous ne le seriez naturellement face en tout cas à la pandémie. Et d'ailleurs, Jean Giono, ce grand écrivain, comme souvent, il avait touché quelque chose du doigt, comme souvent les artistes. Une des leçons de ce grand roman de la pandémie, qu'est le Hussard sur le toit, c'est ça. C'est que la peur rend encore plus vulnérable. La peur panique rend encore plus vulnérable. Et la leçon sous-jacente du roman, c'est qu'une certaine forme de sang-froid et peut-être même de liberté face à la pandémie renforce l'immunité du héros qui s'appelle Angelo dans le roman. Alors il faut réfléchir à tout ça. Je ne suis pas sûr que la peur soit la bonne réponse à aucun égard.
Et pourtant, c'est notre pain quotidien.
C'est notre pain quotidien. Ben moi, j'essaye de... Enfin, personnellement, je mange le moins possible de ce pain-là. Je suis, compte tenu de mon âge, je dois faire partie des sujets à risque. Ben écoutez, je ne ressens pas, je ne cède pas à cette peur. D'ailleurs, je ne la ressens pas non plus. Mais lorsque j'entends, il n'y a pas que les gouvernants, lorsque j'entends certains de vos confrères, lorsque j'entends certains des médecins, pas tous heureusement, il y a des médecins qui gardent leurs esprits semer la panique, ben c'est vrai que pour ce qui me concerne, mais je n'y cède pas. Je n'en tire aucune gloire, c'est ainsi. Voilà, malgré mon âge.
Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été mon invité sur Europe 1. Et bien justement, on va parler avec un médecin, avec Karine Lacombe. C'est juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Karine Lacombe.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, 9 grandes villes de France sont de nouveau confinées depuis hier, de 21h à 6h du matin. Ça représente un tiers des Français. Le président de la République nous a prévenu que nous en avions au moins jusqu'à l'été prochain avec le virus. Alors, parlons-en de ce virus. Est-ce qu'on le connaît mieux 8 mois après son arrivée dans notre pays ?
Oui, alors heureusement, on a fait énormément de progrès sur le plan scientifique. On connaît beaucoup mieux ce nouvel agent infectieux. On sait plus ou moins d'où il vient. On sait comment il se multiplie. On sait comment il se répand, comment il va contaminer les personnes les unes après les autres. On sait également ce que l'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, avec bien sûr certains degrés d'inconnu, mais on sait les symptômes qu'il va déclencher. On sait par exemple qu'il peut se transmettre entre personnes asymptomatiques, ce qui donne d'ailleurs toute l'ampleur à l'épidémie. Et on connaît de mieux en mieux certains médicaments qui peuvent améliorer les symptômes et donc faire baisser la mortalité. Donc oui, on a fait en un temps record énormément de progrès.
Et est-ce qu'on sait mieux le soigner ?
Alors on sait mieux le soigner, effectivement. On ne sait pas pour l'instant prévenir la transmission entre humains. Donc ça, c'est un vrai problème, ce qui explique que pour l'instant, on n'arrive pas à maîtriser l'expansion de l'épidémie de façon très satisfaisante. En revanche, une fois que quelqu'un est malade et qu'il a des symptômes, eh bien, on connaît les facteurs de risque de développer une forme grave. Et on sait également, quand la personne est hospitalisée en besoin d'oxygène, diminuer l'intensité des symptômes et faire en sorte qu'il ne passe pas en réanimation. Alors, on ne réussit pas à 100%, on a encore malheureusement beaucoup de passages en réanimation, mais malgré tout, on a quand même diminué de 50% la mortalité entre mars 2020 et cet été, par exemple. Et on a également diminuer les passages en réanimation, le taux d'intubation, etc. Donc on a fait des gros progrès.
On disait il y a 8 mois de ce virus qu'il se propageait vite, mais qu'il tuait peu. Est-ce qu'on peut toujours le dire ?
On ne meurt pas plus maintenant qu'avant. Je dirais même moins qu'on meurt. Je dirais même plus, pardon, qu'on meurt moins. En revanche, il y a beaucoup plus de personnes infectées parce que l'épidémie s'est propagée extrêmement vite et donc en conséquence, même si le pourcentage de décès est moins important, il reste extrêmement élevé.
Les premiers résultats de l'essai clinique de l'OMS Solidarité, qui a été réalisé dans 400 hôpitaux de 30 pays, montrent hélas qu'aucun des traitements étudiés n'est efficace. Ni l'hydroxychloroquine, ni le remdesivir, ni le lopinavir, ni l'interféron. Aucun n'a réussi à diminuer de façon significative la mortalité des patients. Est-ce que c'est décourageant ?
Alors, c'est décourageant dans le sens où on aurait bien aimé qu'une de ces molécules dites repositionnées, c'est-à-dire qui était déjà autorisée sur le marché mais dans d'autres indications, a été évaluée et donc ne marche pas. Quand on est face à un nouvel agent infectieux, on n'a pas évidemment encore de traitement ciblé, c'est-à-dire spécifique du virus. Donc, on essaie d'utiliser des molécules dont on a pu montrer dans les tubes à essai qu'elles pouvaient diminuer la multiplication du virus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les molécules repositionnées et c'est ce qui a été évalué dans l'essai Solidarity, qui contient d'ailleurs l'essai européen Discovery. Malheureusement, je dirais, aucune des stratégies qui a été évaluée n'est efficace, mais à ce jour, aucun traitement repositionné n'est efficace en dehors des corticoïdes. Corticoïdes qui sont un traitement qui est très ancien, qu'on utilise dans plein de maladies inflammatoires, qui ne marche pas, par exemple, dans la grippe grave, mais en revanche, dont on a montré assez tôt d'ailleurs, en mai, que c'était un traitement qui pouvait diminuer de façon considérable la mortalité par la Covid-19. Donc, effectivement, on peut dire que Solidarity est un échec, mais pour moi, je ne pense pas que quand on a un résultat négatif, c'est pas forcément un échec. Ça montre au moins que ça ne sert à rien d'utiliser ces médicaments. Ça ne sert à rien d'utiliser l'hydroxychloroquine, le lopinavir, le remdesivir, comme vous disiez, dont on a eu des résultats un peu différents dans d'autres essais. Et on peut dire que Solidarity remet un peu les pendules à l'heure. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on se concentre sur ce qu'on appelle les molécules ciblées qui ont été élaborées vraiment pour attaquer le virus lui-même.
Et pour ce qui concerne le ou les vaccins ?
Ah, alors ça, c'est la grande question, c'est-à-dire que c'est le grand challenge des mois à venir. On voit bien qu'on a des moyens de prévention qui pourraient très bien marcher, mais qui sont extrêmement difficiles à mettre en place sur le long terme. La distanciation sociale, le masque, le lavage des mains, l'aération des pièces, ça ne peut être que des mesures complémentaires immédiates, mais qui ne peuvent pas se substituer à un traitement de prévention qui serait la mise au point d'un vaccin. Il y a plusieurs vaccins, même de très nombreux vaccins, avec des méthodes différentes d'élaboration qui sont en cours d'élaboration. On ne sait pas encore ce que ça va donner. On a des résultats préliminaires qui sont montrés qu'on a des anticorps qui permettraient de se défendre contre le virus, mais est-ce que ces anticorps vont durer dans le temps? Est-ce que ces vaccins ont une bonne innocuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de tolérance? Ça, on ne sait pas encore et ça va prendre des mois pour le savoir.
Karine Lacombe, on a vu à Hong Kong le premier décès d'un patient réinfecté. Il avait guéri, il avait eu le Covid, il avait guéri, il a été réinfecté et on en a conclu et on a observé plus exactement que les symptômes seraient plus graves que lors de la première infection, en tout cas dans plus de 50% des cas.
Oui.
Vous le confirmez?
Oui. Alors, on avait déjà rapporté des cas de réinfection. Ce qui d'ailleurs confirme ce que l'on supposait, c'est que certaines personnes ne développent pas d'anticorps, ou certaines personnes en développent, mais les anticorps disparaissent. Ce n'est donc pas un virus qui est très immunisant. Et le cas que vous rapportez est quelque chose qu'on connaît assez bien pour d'autres maladies, par exemple comme la dengue, qui est une maladie transmise par les moustiques, une maladie tropicale, où quand on est réinfecté par la dengue, on a un risque de faire une dengue plus forte, éventuellement d'en décéder, parce que on a des anticorps que l'on dit facilitants, c'est-à-dire que ces anticorps, au lieu de nous protéger, eh bien en fait, ils augmentent les symptômes de l'infection. Donc c'est probablement ce qui s'est passé avec ce patient de Hong Kong. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a déjà été infecté une fois qu'on ne peut pas se réinfecter, premièrement. Et si on se réinfecte, eh bien, on est à risque de faire une forme grave. Donc on voit qu'on n'est pas du tout à bout de l'épidémie.
Karine Lacombe, parlons de la France et du couvre-feu. Selon les prévisions de l'Institut Pasteur il y a 2 semaines, les services de réanimation de presque toute la France devaient être débordés par les patients du coronavirus au mois de novembre. Depuis, c'est d'ailleurs ce que disait dans les médias le ministre de la Santé, Olivier Véran. Depuis, l'Institut Pasteur a procédé à de nouvelles modélisations, beaucoup moins catastrophistes, pas Olivier Véran. Alors, qui croire?
Moi, je dirais que il faut croire les sachants, ceux qui reconnaissent qu'ils peuvent faire des erreurs. Hein, la médecine, la modélisation, c'est pas une science exacte. Donc, on peut faire des erreurs. Ce qui était très important de la part de l'Institut Pasteur, c'est de reconnaître qu'il avait fait une erreur. Et après, il va falloir adapter les mesures qui sont prises sur les modélisations avec ces nouveaux chiffres. C'est vrai que les choses bougent. Par exemple, moi, je vais prendre ce que j'ai bien écouté, ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy tout à l'heure. Je maîtrise pas les concepts philosophiques. C'est pas du tout mon métier. Moi, je vis la réalité au quotidien, la réalité dans mon hôpital, la réalité dans mon groupe hospitalier. La réalité du quotidien, c'est que en mars, avril, mai, 100% de nos lits à l'hôpital étaient occupés par du Covid. On n'a jamais vu ça. Jamais. Jamais, jamais, une seule maladie occupe tous les lits d'hospitalisation. Grâce au confinement, l'épidémie en mai-juin s'est trouvée plutôt contrôlée avec un nombre de cas qui persistait mais très faible et quasiment pas d'arrivée à l'hôpital. En juillet, j'avais même pas un cas par semaine. En août, on a commencé à avoir 3-4 cas par semaine occupés dans le service. Moi, j'ai un service de 40 lits à peu près. En juin et là, en octobre, au jour d'aujourd'hui, sur les 40 lits que j'ai, j'en ai 21 occupés par des patients Covid et j'ai à peu près un passage par jour en réanimation. Donc on ne peut pas nier l'ampleur de l'épidémie, on ne peut pas nier qu'on est dans une deuxième vague. Alors après,
ce n'est pas ce que
quel
faisait,
va être le sommet de cette vague.
Bernard-Henri Lévy, il ne niait pas l'ampleur de l'épidémie.
Non, mais Bernard-Henri Lévy a dit qu'on ne devait pas avoir peur, qu'on devait affronter le virus. Alors nous n'avons pas peur, nous affrontons le virus. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars-avril, toutes les autres pathologies avaient disparu. C'était quelque chose d'assez incroyable. Enfin, je pense que plus tard, on verra que beaucoup de gens sont morts de ne pas avoir eu accès à des soins, mais ça, on le verra que l'année prochaine, quand on fera les statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période actuelle, on n'est pas du tout dans le même format. C'est-à-dire qu'à côté de ces 50% de malades du Covid-19, eh bien moi, j'ai 100% de malades habituels. Donc, le système de soins français n'a pas la taille pour s'occuper du tout venant habituel pour lequel il a été dimensionné et en plus gérer une épidémie d'une nouvelle maladie infectieuse avec tous les passages en réanimation. Donc c'est ça le problème. Et en plus, juste pour finir, en plus on ne combat pas une épidémie en ouvrant des lits de médecine ou des lits de réanimation. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution en fait. Je dirais qu'il n'y a que des moins pires.
C'est le couvre-feu que beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre, sachant qu'on se contamine au travail, à l'université, dans les réunions de famille, et que c'est la nuit qu'on nous empêche de sortir pour aller au théâtre ou au cinéma. Ça a une logique pour vous qui êtes infectiologue ?
Je partirai pas du moment de la journée. Moi, je partirai du moment où on sait que quand on n'a pas les masques, c'est comme ça que le virus se transmet. Il continue de se transmettre même qu'on a les masques, mais à un taux extrêmement faible. Donc, quand on ne porte pas les masques, quand on est dans des situations de promiscuité, de convivialité, donc de promiscuité, c'est là où le virus se transmet. Quels sont les moments dans la journée où personne ne va porter les masques ? C'est principalement le moment de la journée où on va se détendre, où on va enlever le masque pour manger, boire un verre, et on sait comment c'est. Quand on mange, on boit un verre, à un moment donné, les gestes barrières n'existent plus. Donc c'est à ces moments-là qu'il faut diminuer ce risque de promiscuité. Ensuite, il y a d'autres moments dans la journée où il y a une grande promiscuité. C'est évidemment les transports en commun. Donc il faut pousser à ce qu'il y ait plus de télétravail, de façon à ce qu'il y ait moins de gens dans les transports en commun. C'est également les moments de scolarisation, donc scolarisation, que ce soit école primaire, secondaire ou l'université. Et c'est la raison pour laquelle on fait porter des masques aux enfants, au collège et au lycée. Dans les universités, il y a beaucoup de cours en présentiel qui ont été remis en place et l'interdiction des fêtes étudiantes. Et ensuite, comment justement la raison pour
Très
laquelle
vite,
le
parce
soir
que l'émission se termine.
Oui, excusez-moi. écoutez, donc le soir, oui, le soir, pour les raisons que je viens de vous dire.
Oui,
mais je comprends ce
mieux.
Que veut dire Bernard-Henri Lévy. Mais c'est pas du tout. Vraiment, il n'y a pas de bonne solution. Il y a vraiment que des moins pires. Et les moins pires actuellement, vu l'intensité de l'épidémie, c'était le couvre-feu.
Merci Karine Lacombe d'avoir été en direct sur Europe 1. L'émission se termine. Yannick. Michael Darmon qui vient de rentrer
Bonjour.
Dans le studio. Michael, au programme.
La barbarie a frappé l'école, édition spéciale du Grand Rendez-vous. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Thierry de Montbrial, spécialiste des questions de terrorisme.
Merci Michael.